Très bon réveil à tous. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le défenseur des droits dénonce une crise de confiance et une augmentation des violences de la part des forces de l'ordre. Son rapport annuel publié ce matin résonne particulièrement alors que les manifestations contre les violences policières essaiment depuis des semaines depuis les États-Unis et la mort de George Floyd à Minneapolis.
Cet homme noir de 46 ans interpellé et asphyxié par un policier blanc, la police de Minneapolis va être démantelée car elle n'est pas réformable en l'état, estiment les élus de la ville.
À la une en France, le nombre de décès lié au coronavirus qui est au plus bas depuis la mi-mars et le président du conseil scientifique penche pour un assouplissement du protocole sanitaire à l'école.
Le coronavirus qui a entraîné un fort ralentissement du trafic maritime, l'occasion peut-être de remettre en cause les activités commerciales les plus polluantes, c'est ce que nous verrons à l'occasion de la journée mondiale de l'océan.
Les municipales à Paris, Anne Hidalgo a-t-elle déjà gagné? C'est la question que posera Stéphane Robert dans son billet politique juste après ce journal. C'est l'un des sujets pointés dans son rapport annuel publié ce matin. Le défenseur des droits Jacques Toubon dénonce une crise de confiance et une augmentation des violences de la part des forces de l'ordre. L'institution, incarnée donc par Jacques Toubon, constate une hausse continue des saisines dénonçant l'action des forces de sécurité. 1957 réclamations l'an dernier à ce sujet. C'est un record, 3 fois plus qu'il y a 5 ans. Dans un cas sur 4, ce sont des violences policières qui sont dénoncées. Les détails avec Antoine Marette.
En 2019, ce sont 895 personnes qui ont saisi le défenseur des droits parce qu'elles n'ont pas pu déposer plainte ou qu'elles ont subi des propos déplacés de la part d'un policier ou d'un gendarme. Il y a par exemple le cas d'une personne souffrant de déficience auditive qui a subi 2 refus de plainte et des conditions d'accueil fortement dégradées. Le défenseur des droits dénonce également des agissements de profilage racial ou social à partir de critères exclusivement discriminatoires liés à l'apparence physique, l'origine, l'ethnie, ou la race ou encore la vulnérabilité économique. Particulièrement visé, un commissariat parisien qui a adressé ces dernières années à la brigade de police secours et de protection des ordres afin qu'elle procède à des contrôles d'identité, je cite, de bandes de Noirs et Nord-Africains et à des évictions systématiques de SDF et de Roms. La préfecture de police a par la suite justifié l'éviction des personnes Roms comme utile dans la lutte contre la délinquance. Le défenseur des droits estime qu'il s'agit d'une faute lourde. Il a demandé l'inspection des commissariats parisiens pour évaluer l'étendue de ces pratiques. Il a également réclamé d'intégrer au code de procédure pénale le fait que les contrôles d'identité ne doivent pas se fonder sur des critères discriminatoires.
Le défenseur des droits Jacques Toubon sera l'invité de Thomas Cluzel dans le journal de midi et demi aujourd'hui sur France Culture. De son côté, la police des polices dit s'être vue confier 1460 enquêtes judiciaires l'an dernier. C'est une hausse de 23,7% sur un an, dont plus de la moitié vise des accusations de violence des forces de l'ordre, selon son rapport annuel. Le mouvement des Gilets jaunes a entraîné une sursollicitation notamment de l'Inspection Générale de la Police Nationale, l'IGPN. C'est ce que précise ce rapport dont la parution intervient en plein cœur d'une nouvelle polémique sur les violences policières. 2 semaines effectivement après la mort de George Floyd aux États-Unis, cet homme noir de 46 ans, asphyxié par un policier blanc lors de son interpellation, des milliers de personnes ont manifesté ce week-end pour dénoncer le racisme et les violences policières, de Paris à Budapest, en passant par Madrid, Rome et Bristol. Dans cette ville du sud-ouest de l'Angleterre au passé esclavagiste, une statue du négrier Edward Colston a été déboulonnée puis piétinée par les manifestants. Une fois tombé au sol, aux États-Unis, Derek Chauvin doit comparaître aujourd'hui pour la première fois devant la justice. Il est inculpé de meurtre au second degré pour la mort de George Floyd. Et avant les obsèques de George Floyd qui débutent aujourd'hui à Houston, sa ville natale au Texas, dans la ville où cet homme a été tué, Minneapolis, le conseil municipal a décidé hier de démanteler ses forces de l'ordre actuelles, pas réformables en l'état, selon les élus de la ville. Ils veulent un nouveau modèle de sécurité publique qui assure vraiment la sûreté de la population. C'était une demande récurrente des manifestants. Écoutez, à ce sujet, Connor, un étudiant rencontré par Eric DeSalve dans le quartier de Minneapolis où George Floyd a été tué.
Le système policier fait beaucoup de mal aux Américains. Je crois qu'il est même en place pour nuire aux Noirs américains. C'est pour cela qu'il faut le démanteler, pour mettre cet argent ailleurs et en faire bénéficier les habitants. Dans les écoles publiques, par exemple, des millions d'enfants ont des policiers dans leurs couloirs, mais pas de conseillers d'orientation et pas d'infirmières. Cela doit absolument changer. Donc il faut démilitariser la police et la démanteler pour financer d'autres projets à la place.
Connor, un étudiant rencontré par Éric de Salve, envoyé spécial d'RFI à Minneapolis pour France Culture. Toujours aux États-Unis, l'ex-secrétaire d'État de George W. Bush, Colin Powell, a annoncé qu'il voterait pour le démocrate Joe Biden, le premier afro-américain à avoir occupé le poste de chef d'état-major des armées avant de devenir chef de la diplomatie américaine sous la présidence donc de George W. Bush. Colin Powell, qui avait longuement évoqué en 2003 les armes de destruction massive prétendument détenues par l'Irak pour justifier l'invasion du pays. Colin Powell met aujourd'hui en garde contre le danger d'un second mandat de Donald Trump, président, je cite, qui ment tout le temps et qui divise les États-Unis, selon Colin Powell, une accusation déjà portée par James Mattis, l'ancien ministre de la Défense de Donald Trump.
8h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins. Faut-il accélérer le déconfinement, avancer le début de la troisième phase, prévue pour le moment au 22 juin.
En France, des parents d'élèves demandent à ce que leurs enfants soient accueillis en plus grand nombre, en tout cas à l'école. Des restaurateurs réclament eux aussi que les restrictions soient assouplies. Et même Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique à l'origine opposé à la réouverture des écoles, s'est prononcé en faveur d'un assouplissement du protocole sanitaire à l'école. Il faut dire, Hélène Chevalier, que 4 semaines après le déconfinement, les indicateurs de l'épidémie sont plutôt au vert.
Certes, ce n'est pas un indicateur pertinent, mais il est symbolique. Hier, 13 personnes sont mortes du coronavirus à l'hôpital. C'est le bilan le plus faible depuis le 14 mars, avant le confinement. Nombre d'hospitalisations, de consultations chez le médecin, pourcentage de tests positifs. L'épidémiologiste Daniel Lévy-Brul scrute tous ces indicateurs pour Santé publique France et aucun n'indique de seconde vague.
Nous suivons un indicateur qui est ce fameux nombre de reproductions, ce fameux R. Et ce R confirme que dans aucune région, dans aucun département, il n'y a d'intensification de la circulation du virus qui ferait craindre le fait qu'il y ait une reprise de l'épidémie.
Les 150 cas groupés repérés sont eux aussi sous contrôle, selon l'agence. Même les EHPAD, pourtant durement touchés pendant cette crise, comptent très peu de nouveaux cas depuis un mois. Pas question pour autant d'aller trop vite, tempère l'épidémiologiste.
Une bonne nouvelle comme celle-ci, le fait de dire, parce que c'est la vérité, aujourd'hui l'épidémie est sous contrôle, pourrait induire un relâchement, parce que bien entendu, les mesures barrières, les mesures de distanciation sociale, c'est une très forte contrainte que nous subissons depuis des semaines, voire des mois. Tout le monde a envie de pouvoir revivre la vie d'avant. Malheureusement, c'est encore trop tôt.
Deux départements échappent tout de même à ces bonnes nouvelles, la Guyane et Mayotte, où le virus circule toujours de façon active.
Pas de revirement encore en Suède, mais tout de même l'ombre d'un doute. La stratégie du non-confinement ne fait plus l'unanimité dans le royaume scandinave, où le taux de décès occupe désormais le 5e rang mondial rapporté au nombre d'habitants, devant donc la France, mais après les États-Unis et le Royaume-Uni notamment. Les autorités sanitaires suédoises et les politiques montrent de premiers signes d'hésitation. Et si le non-confinement n'était pas la meilleure stratégie longtemps acquis, le consensus à la suédoise se fissure aujourd'hui, Louise Baudet.
Il est le visage et la voix de l'exception suédoise. Anders Tegnell, épidémiologiste en chef de l'agence de santé publique, n'a rien perdu de son assurance décontractée, mais le ton a tout de même changé.
Si nous devions rencontrer la même maladie avec tout ce que nous savons aujourd'hui sur elle, je pense que nous agirions à mi-chemin entre ce que la Suède a fait et ce que le reste du monde a fait.
Un mea culpa, pas tout à fait.
Nous continuons à penser que notre stratégie est la bonne, car il faut s'inscrire dans le long terme. Et il est trop tôt pour dire qui de la Suède ou des autres pays a eu raison.
Pas d'interdiction, de simples recommandations et un appel à la responsabilité individuelle de chacun. La Suède continue sur sa lancée, malgré un taux de décès qui alarme ses voisins européens, notamment scandinaves. Par ailleurs, le non-confinement n'a pas sauvé l'économie, largement tributaire des exportations. Le PIB suédois souffre lui aussi. Et à mesure que la confiance s'érode, le consensus politique se fissure. Sous la pression de l'opposition, le gouvernement a dû accepter la mise en place avant l'été d'une commission d'enquête indépendante sur la gestion de la crise sanitaire.
Et après des mois d'une pandémie qui a bouleversé l'économie de la planète, la journée mondiale de l'océan organisée aujourd'hui par les Nations Unies résonne d'une façon particulière. Le fort ralentissement du trafic maritime lié au coronavirus interroge sur l'utilisation des océans à l'avenir pour les activités commerciales les plus polluantes, Bertrand Galichet.
La chute brutale mais temporaire du trafic maritime sur la planète a offert un répit de courte durée aux océans. La géographe Élise Dallier enseigne en classe préparatoire au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École.
90% environ de ce que nous consommons vient de la mer et passé par la mer. La perturbation très importante des zones de production, des zones de consommation et des marchés mondiaux pendant cette crise du Covid a eu des conséquences dans le transport maritime. En février-mars, au début de la crise, avec 50% d'annulation de départ dans les ports chinois.
S'y ajoute la mise à l'arrêt de la majeure partie des navires de croisière, autre activité polluante, mais jusque-là en pleine expansion, et qui devra peut-être revoir son modèle économique.
Est-ce qu'une partie des touristes voudra éviter les bateaux géants de croisière, parce qu'ils représentent un risque ? Peut-être également que dans cette crise du coronavirus, où on a beaucoup parlé du monde d'après, certains touristes voudront changer leur mode de consommation touristique.
Des modes de transport agressifs pour la mer, cette journée mondiale est placée sous le signe de l'innovation au service d'un océan durable.
Et avec la pandémie, envisagez-vous de nouvelles façons de voyager ? C'est le thème de hashtag notre reportage interactif de la semaine que vous pourrez retrouver vendredi sur franceculture.fr. C'est la première ville française de plus de 100 000 habitants qui pourrait élire à sa tête un maire d'extrême droite. À Perpignan, le député Louis Alliot du Rassemblement National est arrivé très largement en tête du premier tour avec 35,6% des voix devant le maire sortant, les Républicains, Jean-Marc Pujol. Comme en 2014, il bénéficie du retrait républicain, c'est-à-dire du retrait sans condition, sans modification de sa liste, de deux candidats ayant réuni plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour. Il s'agit des candidats Verts et En Marche. Mais dans cette ville, Perpignan, qui totalise 200 000 habitants pour l'agglomération entière, l'issue du duel est incertaine. Le reportage à Perpignan de Sophie Delpont.
Depuis sa salle de réunion, en plein centre de Perpignan, Jean-Marc Pujol, maire LR sortant, évalue la situation.
Il se joue un enjeu qui est un enjeu national, puisqu'il y a aujourd'hui un représentant éminent du Rassemblement national, ex-Front national, mais à Perpignan, il essaie de le faire oublier.
Louis Alliot est arrivé en tête au premier tour avec 35,6% des voix, très loin devant Jean-Marc Pujol. Il a donc appelé au retrait républicain, c'est-à-dire un retrait sans contrepartie des deux autres candidats qui ont obtenu plus de 10% le 15 mars dernier. Louis Alliot, député du Rassemblement national, est candidat pour la quatrième fois ici. Sa stratégie est claire.
Continuer à faire de la pédagogie sur ce que nous proposons et face au bilan du maire. Voilà. Et puis surtout, rassurer, parce que c'est vrai que cette pandémie a laissé des traces et il y a des personnes qui sont encore réticentes pour aller voter. Mais très honnêtement, petit à petit, on sent bien que les choses sont en train de se débloquer.
Bonjour madame.
Dans la rue, à deux pas de la mairie, Franck, sans domicile fixe de 40 ans, a pu croiser les deux candidats depuis son coin de trottoir.
Louis Alliot dit pas bonjour. Ouais, je suis juste à côté et tout. Alors que Monsieur Pujol, il dit bonjour. Bon, je m'en fous, hein, chacun. Mais au moins le respect, je sais pas, quoi. C'est pas parce que je fais la manche que je dois être en dessous des autres, quoi, ou n'importe. On est tous égaux, quoi. Eh ouais.
Il compte bien aller voter au second tour, le 28 juin prochain.
Un reportage signé Sophie Delpont à Perpignan pour France Culture. Le parvis de Notre-Dame a rouvert il y a une semaine après de longs travaux de dépollution au plomb qui continuent d'ailleurs, mais désormais le chantier suspendu deux fois à cause du plomb puis du coronavirus, sans parler des intempéries, ce chantier entre aujourd'hui dans une nouvelle phase très symbolique et autrement plus délicate. Le démontage de l'échafaudage perché à 40 mètres de haut commence aujourd'hui, Mathilde Dehimy.
C'est la dernière phase de sécurisation de l'édifice. 40 000 tubes de métal de 200 tonnes, tordus par la chaleur, soudés parfois entre eux, qu'il va falloir délicatement retirer du haut de Notre-Dame. Une étape spectaculaire qu'il a fallu préparer bien en amont, raconte Julien Lebras, président du groupe Europe Échafaudage qui a installé la structure.
Il y a eu une centaine de vérins qui ont été disposés pour lui redonner des appuis, un ceinturage par des grosses poutres treillis qui sont venues ceinturer l'échafaudage pour le consolider. calculer. Toutes ces tâches préliminaires sont vraiment fondamentales dans la dépose de cet échafaudage.
Des cordistes sont en appui, des équipes d'Europe échafaudage en nacelle. Comme un mikado, il faudra trouver le bon ordre pour respecter l'équilibre de l'ensemble avec une modélisation en 3D pour aider Julien Lebras.
Des capteurs ont été positionnés pour surveiller un peu les formations, que ce soit pour les coups de vent, que ce soit pour la dilatation quand il y a des changements de température importants. Comme le grand public, on a hâte que cette structure soit enlevée et qu'on puisse rentrer dans un chantier un peu plus normal, bien qu'il ne sera jamais normal.
Et le sort continue de s'acharner. Le soleil présent durant tout le confinement a laissé place à la pluie et surtout au vent. Une météo qui jouera sur le temps prévu pour ce démontage inédit qui doit durer 3 ou 4 mois.
Et le temps justement de ce lundi 8 juin, il est bien instable, partagé entre nuages, éclaircies et averses. Au meilleur de la journée, il fera 16 degrés à Lille, 21 degrés à Paris et à Strasbourg, comptez 22 degrés à Nantes, 23 à Marseille et 24 à Corte, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.